Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Avec moi aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Bonjour, cher Francis Plisson. Alors, si j'allume pas le bon micro, là, c'est pas de votre faute, c'est à cause de moi si on vous entend pas. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et une voix que vous allez reconnaître, c'est Mathieu Durieux. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélissa et bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus Tour.
Voilà, chargé de communication au Petit Faucheux. Alors si tu viens aujourd'hui, ce n'est pas exclusivement pour nous parler de la programmation de notre salle de jazz préférée. Tu es ici avec Francis Plisson pour nous parler de la 13e édition du festival Écoute Voir. Alors, 13e édition, Francis Plisson, vous êtes le programmateur, un des programmateurs de ce festival, 13e édition, avec un vendredi 13. Est-ce que vous êtes superstitieux ?
Non, je ne suis pas trop... Enfin, superstitieux, oui, je suis superstitieux, par exemple, je ne passe pas le sel, mais sur les spectacles, pas trop.
Voilà, donc là, on est dans la croyance, la superstition. Et alors, à votre avis, quelle place vous accordez-vous en tant que chorégraphe, danseur et programmateur du festival Écoute Voir à tout ce qui est lié au rituel, à la croyance ? Quelle place ça a dans votre travail ?
Alors, c'est pas la même chose, rituel et croyance, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon interprétation. Je tiens beaucoup au rituel, ouais. Je trouve que c'est super... La notion de rituel est super importante à plein d'occasions, pour nous-mêmes déjà, et peut-être parce que je suis danseur et musicien, chez les danseurs et chez les musiciens, la notion de rituel, de travail, de mise en condition, de préparation, donc qui est offert par, avant de rentrer en scène, par exemple, il y a tout un rituel, un procédé qu'on va répéter, reproduire... Et qui est importante, et la notion de rituel aussi sur les départs, quand on perd quelqu'un, par exemple, je trouve ça important, cette notion de rituel d'accompagnement. Donc voilà, oui, donc j'aime beaucoup les rituels.
Et alors sur la dimension spirituelle de la danse, parce que peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller en voir pensent que c'est des corps en mouvement qui bougent, mais vous, quelle dimension vous y voyez ? Quelle dimension alors. Spirituelle ?
Est-ce qu'on va lier le spirituel à l'imaginaire ? Donc le spirituel est lié à l'imaginaire, en tout cas la perception de quelque chose qui est non palpable. Donc forcément, dans la danse, il y a cette notion d'accepter, de recevoir quelque chose qu'on ne va pas forcément comprendre. Ça va ?
C'est votre
faut
définition.
Est-ce qu'il faut développer ? Donc en fait, du coup, alors si je pose mon devoir, donc je vais poser la problématique d'abord, et puis après je développe en plus.
Radio étudiante oblige.
Donc je sais pas.
Bah, déjà le nom du festival, Écoute Voir, c'est tout un poème en soi.
Ouais, donc, bah, oui, non, ça c'est Mais après, on écoute et on voit, enfin, en tout cas, si pas tout le monde, parce que peut-être parce que je suis sourd, justement. Donc, du coup, pour moi, l'audition par la vue est une notion importante. Et du coup, j'imagine aussi la vue par l'audition. Et cette année, d'ailleurs, j'ai quand même plusieurs propositions qui travaillent exactement à cet endroit-là, avec un spectacle de danse, par exemple, sans danseur. Des choses comme ça. Donc après, je pense qu'il y a plein de choses qu'on utilise sans s'en rendre compte. Mais par exemple, pour un sourd, pour un malentendant, sans employer le mot sourd, qui va développer, si on lui enlève la vue, par exemple, c'est la catastrophe. Hein, qui était la problématique, par exemple, pendant la pandémie avec les masques pour les malentendants. Parce que du coup, on ne pouvait plus avoir la lecture labiale.
Alors justement, puisque vous parlez d'audition, d'entendre, voir, de voir et d'entendre, il y a dans cette riche programmation de la 13e édition un spectacle où il est question de vitrine et d'audiovision. Alors là, je mentionne Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire de ce spectacle-là, joué dans un lieu surprise?
Alors, est-ce que du coup, c'est intéressant parce que sur les questions qu'ont posées Anne-Laure et Anne-Julie sur est-ce qu'on entend bien ce qu'on voit et est-ce qu'on voit bien ce qu'on entend? Voilà, juste en partant de ces deux interrogations, c'est un spectacle. Alors, je ne peux pas tout dévoiler du spectacle parce que, quand même, ce spectacle tient, garde une part de mystère sur l'aventure qu'on va emmener parce que, sur le lieu où ça va avoir lieu et puis sur ce qui va arriver au spectateur. C'est un spectacle en toute petite jauge. Vraiment un rapport de partage, on va dire, intime avec les spectateurs aussi, sur une observation. Et elle va être en interaction, Anne-Julie Rollet, et toutes les deux d'ailleurs, mais surtout Anne-Julie Rollet travaille énormément sur cette notion. Ben, on est à la radio, on travaille sur la notion radiophonique, sur la notion documentaire et sur la composition musicale à partir du documentaire. Elle fait vraiment un travail passionnant. Peut-être on aura l'occasion tout à l'heure d'écouter quelque chose. Donc vitrine, ouais, vitrine, ça correspond, ça rentre pile poil dans la proposition de festival, mais je pense qu'il reste 3 places ou 4 places peut-être de disponibles. Donc,
je crois qu'il en reste même une pour la première
donc,
séance.
S'il y a un auditeur là qui veut voir cette proposition, il faut qu'il saute sur son ordinateur et qu'il la prenne tout de suite.
Voilà, est-ce qu'on peut rappeler justement ce spectacle? Il y a donc une place pour une des sessions, mais il y en a 3, je crois.
Il y a trois représentations, ouais. Justement parce que c'est une petite jauge, mais Mathieu va répondre à ma place, lui qui a toutes les infos sur la billetterie.
Oui, bah, les autres séances sont effectivement complètes. Il y a une séance à midi dans laquelle il reste une place et une séance à 14h30 et une à 17h qui sont toutes les deux complètes.
Voilà, ça c'est samedi, ce spectacle-là. Et si on poursuit cette exploration, en tout cas avec cet angle-là sur le festival Écoute Voir, il y a un soin qui a porté justement au public, disons, qui peut-être ne voit pas ou n'entend pas. Donc il y a des propositions justement de spectacles qui sont notées sur le programme avec des pictogrammes. Donc en tout cas, il y a cette attention-là qui est portée aux différents publics.
Oui, avec les pictos, oui. Oui, c'est important. Déjà, c'est important pour l'accessibilité, voilà, de donner des informations. C'est vrai que c'est un festival qui a des propositions, en tout cas, qui permettent. On a aussi une autre proposition qui a lieu au CCCOD, qui est pour les non-voyants. Donc, voilà, qui va permettre à des non-voyants d'assister à un spectacle de danse. Mais c'est complet.
C'est complet aussi, mais ce n'est pas une raison de ne pas en parler.
C'est les deux propositions qui sont complètes.
Le reste n'est pas complet, donc on peut voir tout le reste, mais est-ce qu'on peut quand même dire un mot sur ce festival sur Claudine Simon, Piano Machine, je pense, voilà, donc, qui est accessible aux personnes non-voyantes. Parce que même si c'est complet, donc c'est jeudi 12...
Claudine Simon, il pourrait se faire, parce qu'il était complet tout à l'heure, c'était Lorena Dozio. Au CCCOD.
Voilà. Audiodance, Lorena Dozio, Audiodance immatérielle.
Ouais.
Samedi 14, c'est complet. Alors, est-ce qu'on peut juste dire un mot sur ce que c'est, même si nos spectateurs ne peuvent plus prendre de place, pour qu'on explique ce que c'est, en fait, parce que c'est quand même très intéressant. Donc, c'est quoi, en fait, ce spectacle?
Ouais, j'en parle quand même si c'est complet, parce que je pense que c'est vraiment une proposition très, très intéressante. Si c'est complet, c'est parce que ça joue beaucoup de fois, mais c'est que ça joue à chaque fois que pour 8 personnes. Donc, c'est la raison. C'est. Lorena, qui est chorégraphe et danseuse, et son compagnon, qui est aussi très impliqué dans le projet, qui s'appelle Keren Gebelek, qui est un merveilleux danseur, qui danse avec Christian Rizzo, travaillait sur la notion d'imaginaire en danse. Donc, du coup, il y a plusieurs pièces sonores qui s'écoutent au casque, dont deux. Donc, les gens participent, s'installent comme dans un spectacle, mais d'une manière très, très confortable. Il y a une première pièce où c'est un danseur qui va décrire toute sa danse en dansant en même temps, du coup, ce qui permet une certaine identification au danseur par l'oreille. Il y en a une autre Du coup, c'est quelqu'un qui va décrire un danseur, et notamment une danse où il y a un danseur et puis ses partenaires. Et finalement, on se rend compte que assez rapidement, on les voit, voilà, tout en les écoutant. Une autre proposition, après, qui est mélangée avec du visuel, mais qui est devant un écran, où il y a justement Kerem qui danse une partie d'une pièce de Christian Rizzo, où ils sont 12 garçons. Seulement, il danse tout seul. Et Lorena décrit tous les mouvements de tous les autres danseurs. Et c'est assez magique, parce qu'au bout de, je sais pas, 15-20 secondes, on commence à les voir, tous ces autres danseurs, alors qu'en fait, ils ne sont pas à l'image. Donc voilà, ça suggère, c'est vraiment à ce niveau-là, justement sur la suggestion, mais c'est la radio, finalement. Qu'est-ce que fait la radio ? La radio va parfois souvent suggérer de l'image par l'audio.
Est-ce que c'est de la radio dansée, alors ?
Est-ce que la radio dans le festival, c'est ça la
question ? Est-ce que c'est de la radio dansée, ce spectacle ? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la radio dansée ?
On pourrait. C'est tout à fait. En fait, c'est des pièces sonores qu'on pourrait tout à fait diffuser à la radio. Après, là, ce qui est intéressant, c'est le partage, en fait, parce que dans le spectacle, contrairement à la radio qu'on peut écouter seul, dans sa voiture, je ne sais pas, avec n'importe quelle chose, il y a cette notion de partager quelque chose avec les autres, c'est-à-dire partager justement cette notion de rituel. Tout à l'heure, on parlait de rituel, donc je trouve que c'est important. Et le rituel, quand on parle de rituel, donc il y a les rituels solitaires, mais il y a des rituels qui se font, qui prennent toute leur force quand on les partage.
Voilà, donc c'est Lorena Dozio, samedi 14, mais c'est complet, chers auditeurs, vous ne pourrez pas aller voir ce beau spectacle, mais si on continue sur notre fil de spectacles accessibles aux personnes non-voyantes, il y a cette fois-ci, je ne me trompe pas, j'espère, Claudine Simon, Piano Machine, jeudi 12, 21h, au Petit Faucheux. Je regarde au-dessus de mon micro, Mathieu.
Alors oui, je peux en parler très, très brièvement, mais c'est Francis qui a vraiment la maîtrise de toutes les propositions artistiques qu'on accueille. Donc voilà, effectivement, c'est une proposition qui est davantage axée sur le son, même si voilà, il y a dans le rapport, dans le corps à corps que Claudine fait avec son instrument. Donc c'est des pianos préparés, piano machine comme le nom du spectacle le présente, un duel, un corps à corps avec son piano, et c'est accessible effectivement aux personnes qui sont non voyantes, parce que voilà, il y a vraiment tout un travail sur le son, voilà, qui correspond aussi bien à nous, au Petit Faucheux, voilà, à des envies et des choses qu'on peut aussi présenter parfois dans le reste de la saison, voilà, dans ce rapport à la musique et à l'expérimentation musicale. Là, on est vraiment à cet endroit-là. Mais Francis, tu pourras peut-être compléter un peu mes propos.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très intéressant chez Claudine, c'est une pianiste virtuose qui a une formation classique, contemporaine et de musique improvisée, et qui, sa sœur est danseuse et chorégraphe. Et finalement, petit à petit, elle a commencé à s'interroger sur la part du corps, et à interroger son propre corps et aussi le corps de son instrument. Sur cet instrument sur ce spectacle là elle a travaillé avec des jeunes chercheurs qui ont travaillé sur une lutherie spécifique, c'est-à-dire qu'il y a on va dire presque un instrument qui va rentrer à l'intérieur de l'instrument, qui permet au piano d'avoir une certaine autonomie et de jouer, et du coup elle travaille sur cette notion de rapport à son propre instrument, et donne une personnalité, donne du corps à son instrument. C'est musicalement très, très 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 riche, et du coup, si c'est aussi pour les non-voyants, c'est qu'il y a une grande part visuelle, mais il y a une grande part, c'est principalement musicale, sonore, donc on peut aussi l'entendre sans le voir. On pourrait plus difficilement le voir sans l'entendre.
Pourquoi
je pense, alors du coup, parce que ça, en fait, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'elle part du son. C'est vraiment une musicienne qui va se poser après la question de la vue et la question de l'existence. Contrairement au spectacle qui juste le précède, c'est m'intéressait de travailler en fait sur les deux spectacles qui s'enchaînent entre Vincent Dupont et Claudine Simon. Je suis parti ça s'appelle du corps au son et du son au corps. Parce que Vincent, c'est l'opposé. Vincent part du corps pour produire du son. Et où l'image chez Vincent Dupont est extrêmement importante et même essentielle pour arriver à l'oreille parce qu'il décompose et du coup voilà, les mettre en juxtaposition. Et Claudine, c'est une démarche inverse, elle part toujours du son pour aller vers le corps.
Donc Vincent Dupont, au cri, entre parenthèses miniature, c'est aussi jeudi 12 comme vous venez de le dire, donc c'est 19h, espace Joséphine Baker, chapelle du conservatoire. Est-ce qu'il y a de la place ?
Il y a de la place encore. Et voilà, c'est un très beau lieu pour ceux qui ne connaîtraient pas ce lieu. Donc la chapelle du conservatoire qui a été donc rebaptisée espace Joséphine Baker. Donc qu'on investit à plusieurs reprises pour le festival Écoute Voir. Et effectivement, il reste encore de la place. Tardez pas, mais il reste de la place.
C'est une très belle proposition, la proposition de Vincent aussi. C'est une de ses premières pièces. Je suis très heureux. C'est une pièce que j'ai vue il y a très longtemps, en 2007. En fait, qu'il a beaucoup tourné, après qu'il ne donnait plus, qu'il a remonté à Montpellier juste avant la crise sanitaire. Donc j'ai proposé à Vincent de la refaire pour cette occasion-là. C'est une pièce fondatrice dans son travail. Et il travaille justement sur cette notion de haut cri. Donc juste pour les auditeurs, le haut cri, c'est quand le corps va pousser un cri de frayeur, quand le cri va sortir, quand c'est le corps, une manifestation physique qui va se sortir en son. Donc qu'on peut avoir quand on a très peur, quand on a d'explosion de joie, ou des choses comme ça. Mais principalement en général avec la frayeur. Et il va redécomposer ce haut cri. C'est en tout cas tout le processus physique qui va amener jusqu'à un cri de rage en une heure. Et tout ça en passant vraiment par le visage. Alors pareil, je ne veux pas donner tous les détails, justement j'enlève de la surprise, mais il a changé l'échelle aussi. Il est dans un décor très théâtral finalement, qui est assez loin, au lointain, qui est comme une maison, sauf que la maison, il a modifié l'échelle. Donc en fait, son corps paraît à l'intérieur de cette maison, donc une salle à manger qui peut ressembler à plein de salles à manger d'ailleurs, qui est assez commune, mais la proportion est modifiée. Et du coup, il est toujours sonorisé, et il produit toujours un espèce de cri qui va partir très très doucement et monte comme ça, et il va aller jusqu'à une explosion à la fin, et c'est vraiment complètement fascinant.
Alors, question naïve, comment on construit cette programmation donc avec des entre guillemets vieux spectacles et des choses récentes ? Comment un programmateur fait une programmation, comment vous trouvez le juste équilibre ?
Alors, un programmateur, en tout cas, parler pour moi déjà, comment moi je fonctionne, les autres, je ne sais pas toujours, mais je pense quand même, on fonctionne pareil. Souvent, j'ai une ou deux propositions que j'ai vraiment envie de montrer. Et autour de ces propositions-là, je vais retravailler sur d'autres choses que je vais rencontrer. Ou que j'ai déjà vu il y a longtemps, que je vais pouvoir proposer à des artistes afin de construire une cohérence entre les propositions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, en tout cas, j'ai travaillé sur trois directions, trois jours. C'est 10 propositions sur trois jours, c'est quand même assez dense. Et j'ai rethématisé à l'intérieur de cette relation entre une cohérence, j'ai rethématisé par journée. Donc la première journée, je viens de le dire, du corps au son, du son au corps. La deuxième journée sur corps politique ou politique dans le corps. Et la troisième journée sur de l'intime vers l'extérieur. Ce qui en partant de ces trois choses-là, j'ai pu fabriquer ma programmation.
Et vous nous avez apporté un son de Claudine Simon. Donc là, vous nous avez expliqué qu'elle était pianiste virtuose. Donc qu'est-ce que vous aimeriez nous faire écouter ? Qu'est-ce que vous voudriez nous faire écouter Claudine Simon ?
De Claudine Simon, là en fait, ce qui est intéressant, j'ai choisi sur Claudine Simon, pas justement ce qu'on va entendre jeudi soir, mais c'est là où elle est que interprète, elle n'est pas créatrice, elle est que interprète, et c'est une œuvre, on va dire une œuvre début du XXe siècle, une œuvre classique d'un compositeur qui s'appelle Osland, qui est d'ailleurs peu connu, et du coup, ce qui demande une très très grande virtuosité pianistique.
Alors, nous écoutons ça sur Radio Campus Tour et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
voilà, c'était Claudine Simon sur Radio Campus Tours. Et oui, Claudine Simon, Piano Machine, à retrouver jeudi 12, 21h au Petit Faucheux dans le cadre de la 13e édition du festival Écoute Voir, avec moi en studio, toujours les mêmes invités, Francis Plisson et Mathieu Durieux. Alors Francis Plisson, vous avez fait dans votre programmation un angle parmi sur les trois jours du festival. Chaque jour a son angle et il y en a un, c'est le vendredi 13, corps politique ou politique dans le corps. Alors, est-ce qu'une danse peut être apolitique ?
Ouais. Donc, c'est quoi le corps politique ? C'est quoi un corps politique ou la politique ?
Est-ce qu'une danse peut être apolitique ?
Non.
Non ?
Non. Pour moi, il n'y a pas d'art apolitique. Après, on peut parfois mettre l'accent un peu plus sur ça que d'autres. Mais il n'y a pas d'art apolitique. Je ne crois pas.
Alors, pour nous.
Ou alors, c'est du divertissement.
Ou alors c'est du divertissement. Donc même, par exemple, le ballet traditionnel, ça porte un message politique.
Bien sûr. Bien sûr. Puis en plus, il est chargé quand même. Donc, non. Et là je suis vraiment deux propositions différentes, opposées, mais extrêmement fortes. Il y en a une de Simon Sen, qui est un artiste qui vient de l'art plastique, qui est en plus d'être forte, elle est très drôle, très simple, et qui pose toutes les apories actuelles sur la question du corps numérique, qu'est-ce qu'on peut en faire, le problème de la législation, enfin, il pose plein de choses, il amène ça d'une manière très drôle. Et on ressort cette proposition bourrée d'interrogations et finalement avec un grand vide devant nous. Et c'est vraiment jubilatoire. Et la deuxième proposition derrière, qui est Lisbeth Cruvès, et qui n'est pas l'appareil, c'est-à-dire que la proposition de Simon est une création qui était. Elle n'a pas été créée cette année, mais elle a été créée il y a juste 2 ans. Et la proposition de Lisbeth, qui est une proposition assez ancienne, où elle a travaillé sur la gestuelle du discours politique, notamment sur un discours d'un évangéliste américain. Et là, le coup, c'est le pouvoir de la gestuelle du discours. Et c'est une merveilleuse danseuse. Lisbeth Cruvès, ça a été une des danseuses principales de Yann Fabre, alors même si... la connotation est difficile, mais qui a tourné un solo énormément qui s'appelle Quand une homme est une femme, le rôle d'un homme est joué par une femme, qui est un solo qui a énormément tourné, qu'elle a fait ça quand elle était assez jeune. C'est une danseuse qu'il ne faut pas louper parce qu'elle a plus 20 ans et qu'elle est assez exceptionnelle et que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Si, elle restera toujours exceptionnelle, mais en tout cas, la technicité de corps qu'elle a, à voir.
Alors c'est un peu triste peut-être ce que vous dites, Francis Plisson, c'est-à-dire que quand on est danseur, on sait qu'il y a un point, disons, d'acmé, où on est au sommet de ses capacités physiques et techniques, et on sait que de toute façon, après, ça ne sera plus le cas.
Ouais. Ça vous pèse sur la tête. Ouais, c'est un truc particulier. Donc après, je pense que surtout les danseurs, quand on fait ce choix, en tout cas, de pousser ça et devenir professionnel, on le sait depuis le départ, on nous prévient beaucoup. Donc c'est un choix de vie, en sachant que ça va s'arrêter, et ça va s'arrêter très tôt. On peut pas dire qu'un danseur est au summum de sa forme, un peu comme un sportif, entre 25 et 35 ans. Parfois déjà en danse classique, à 32, 33 ans, comment ça veut dire que ça va là. On sait depuis le début, ouais. Après, en danse contemporaine, c'est dans les temps. Après, la danse, elle change d'endroit, on va dire, dans le corps. On ne peut pas danser les mêmes choses, on les danse différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien transmettre. J'ai moi-même dansé jusqu'à tard. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut plus danser, mais on pourra... Voilà. Contrairement à un musicien qui va pouvoir interpréter, voire même... Il y a des œuvres qu'il pourra interpréter à 60 ans qu'il ne pouvait pas interpréter à 30 ans. Malheureusement, les danseurs, c'est pas le cas. Après, c'est justement ce choix, c'est justement cet endroit-là de la danse. On dit toujours que le geste, il est à peine né, qu'il est déjà mort. C'est-à-dire qu'une danse, le corps dansant dans le temps, et il existe dans le présent, et uniquement dans le présent. Et ça, c'est aussi fascinant.
Ça veut dire que c'est... Est-ce que c'est un deuil permanent, alors, la danse ?
Comment ?
Est-ce que c'est un deuil permanent, la danse ?
Peut-être, ouais, on pourrait dire, ouais. Peut-être. Mais est-ce que c'est un deuil permanent, un deuil de quoi ? Je pense qu'on est toujours tous dans un deuil permanent par rapport à ce qu'on vit avec le corps, non ?
Je ne sais pas, je laisse les auditeurs se faire leur idée. On peut demander à Mathieu ce qu'il en pense.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, mais le deuil, c'est plein d'étapes, le deuil. Voilà, donc peut-être que oui, il y a plein d'étapes aussi dans ce deuil permanent. Un deuil suivi d'une renaissance à chaque fois, je ne sais pas.
Ouais, voilà, c'est le beau, la renaissance, c'est bien. C'est-à-dire que une fois que c'est mort, en fait, on dit toujours, c'est pas que on parle pas. Souvent, dans, on parle pas de deuil. D'ailleurs, on dit juste que chaque mouvement est neuf, chaque mouvement est nouveau. C'est comme si on l'avait jamais fait. Donc, on parle plutôt de la naissance que de la mort.
Et alors, pour les, avec plein de guillemets, vieux et vieilles danseurs, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit de la danse ? On fait danser les autres ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on danse quand même, caché ?
On danse toujours. Un danseur est danseur jusqu'à son cercueil. Après, il danse, après c'est monter sur un plateau, ce qui n'est pas la même chose. Danser, tout le monde danse. La danse, c'est naturel. Même ceux qui n'aiment pas danser, un jour ou l'autre, ils ont dansé quand même, pour, ne serait-ce que pour faire comme tout le monde, ou ne serait-ce que pour séduire, ou être séduit. Mais tout le monde a dansé. Tout le monde danse. Non ?
Ben, j'espère.
Voilà.
Est-ce qu'on n'écouterait pas peut-être une création sonore ? Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de pièces sonores incroyables. Une pièce qui s'appelle, c'est presque l'heure de manger, une pièce qui s'appelle Carbonara.
Oui, c'est une pièce d'Anne-Julie Rollet. Donc Anne-Julie Rollet qui vient avec Anne-Laure Pigache le samedi, qui font un spectacle qui s'appelle Vitrine. Ça, c'est un autre travail qu'elle a fait dans la vie en Savoie, là, comme ça. C'est quelqu'un qui met justement beaucoup, on va dire, documentaire, radio et création musicale. Écoutons.
Écoutons. Sur Radio Campus Tours, rappelons-le quand même à toutes fins utiles.
Charbonnier. On avait les yeux noirs, on les gardait un moment, hein, ses yeux.
Entre deux cols, autour du Mont-Aiguille, quoi, du moins, c'est. On est une sorte de perchoir, quoi. Et avec la vie qu'il y a ici. Et la vie, elle est plutôt animale. Et... Voilà, donc c'est ça qui me plaît.
Charbonnier.
Si chiama Carbonara.
Carbonie mon ami.
attirer quelque chose avec, que ce soit un cheval, une mule ou un âne, c'est l'attraction animale. Ou l'attraction animale ou l'attraction animale. Moi, c'est l'attraction animale. Très bien. Et oh!
Se dire simplement que là-haut, il y a un endroit un peu différent. Un peu différent, on peut construire des utopies, vivre autrement. Et que peut-être que le charbonnier, on a besoin de lui aujourd'hui comme une icône, en quelque sorte. Ce serait quelqu'un qui témoignerait de cette possibilité de vivre autrement dans la montagne. À l'écart de l'agitation de la vie de la cité. Quoi. Il y a peut-être un peu de ça qui se joue.
Ils la trouveront, il y aura toujours cette part de mystère, même s'il sera marqué cabane des charbonniers. De se dire, tiens, comment ça se fait qu'en 2010, il y a des gens qui sont venus faire une charbonnière, construire une cabane ici. Voilà, rester en fait, construire une petite part, comme une histoire. Une histoire, voilà, mais avec un objet.
Et je trouvais que la charbonnière, c'est un témoin du passé, mais qui est un matériau vivant qui permet aujourd'hui à la société du temps présent de se retrouver autour d'une œuvre commune. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs charbonnières. À chaque fois, je trouve que c'est un exercice merveilleux de rencontre autour d'un ouvrage, parce qu'il y a beaucoup de travail, qui permet de la mixité sociale. On se rencontre entre les charbonniers italiens qui maîtrisaient la technique, des jeunes gens issus des métiers de l'environnement, des professionnels du plein air, des accompagnateurs en montagne, des chômeurs, des gens issus du monde agricole. Donc il y a toute la vie du village qui peut se fédérer autour de ce projet. Je trouve ça intéressant. Et pas simplement autour d'un espace discursif de type démocratie participative. Là, c'est la démocratie en acte. Tout le côté aussi changement des rythmes sociaux. Parce que souvent, nous, on travaille le jour, puis la nuit, on se repose. Puis quand on fait une charbonnière, on travaille aussi la nuit. Et ça, c'est, je trouve qu'à notre époque, un peu de couvre-feu généralisé, c'est pas inintéressant la nuit de réfléchir ensemble, de se rencontrer. Il y a un peu d'intimité aussi de la charbonnière qui cuit. C'est presque un être vivant. Moi, j'étais assez fasciné à plusieurs reprises de voir ce monstre-là qui est là, qui respire, qui crache de la fumée. Enfin, ça sent très très fort. C'est là, c'est fragile en même temps. C'est à la fois monstrueux, démesuré, et en même temps extrêmement fragile. Ça peut s'il y a une tempête de vent très fort, ça peut être détruit facilement. Il faut la protéger. On est là ensemble autour, on se relaie. Et j'aime bien ce temps un peu particulier que ça inaugure. D'habiter le temps. Voilà, je trouve qu'habiter le temps autrement, c'est pour moi important.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour. Nous venons d'écouter Carbonara, une pièce sonore de Anne-Julie Rollet, à retrouver dans la programmation du festival Écoute Voir. Alors je me tourne vers mes invités. Quand est-ce qu'on peut voir le travail d'Anne-Julie Rollet déjà dans ce festival?
Le samedi, il y a trois spectacles. C'est un spectacle qui s'appelle Vitrine, qui joue à midi, 14h30 et 17h.
Qu'on se le dise. Et alors, le samedi 14, pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, il y a une nouvelle thématique. C'est... Alors, j'essaie de tourner mon programme en direct. Vous entendez le bruissement du papier. Samedi 14, voyage de l'intime vers l'extérieur. Alors là, il y a une... Qu'est-ce qu'on pourra voir qui n'a pas déjà été mentionné?
Alors, ce qui n'a pas été mentionné... là, on a beaucoup parlé des propositions intimes. Après... Il y en a une autre qui est entre les deux, on va dire entre l'intime et l'extérieur, qui va être un spectacle qui s'appelle L'Arrêt Verdi, qui est de Steven Hervé et Pauline Bigot, qui est un spectacle ludique. Alors le bleu et le jaune, c'était avant la guerre d'Ukraine. Donc, mais c'était premier d'histoire. Ils sont assez simples, ils sont tous les deux comme ça. C'est assez neutre dans la sexualisation. Ils sont tous les deux torse nu, mais au niveau du genre, on ne sait pas trop lequel est l'homme, lequel est la femme. Ils sont juste peints tous les deux en bleu. Ils travaillent sur c'est très ludique. Finalement, les deux couleurs vont se mélanger pour faire du vert. Voilà, ça part juste d'un truc très simple. Je l'ai vu ce spectacle à Paris dans un parking souterrain. Là, ça va être donné au musée du compagnonnage dans la salle capitulaire et je suis très content de programmer ça. Voilà, c'est un spectacle que vous pouvez venir avec vos enfants. C'est les enfants adorent, ça les fait beaucoup rire. Voilà. Et après, on va aller de plus en plus vers quelque chose comme une mayonnaise, comme ça, qui monte et qui va vers de plus en plus exploser. D'abord, il y a aussi la proposition, j'allais oublier, pourtant c'est vraiment un très très beau travail, qui est le travail de Barazig Fussdorsir et Elvin Lønning, qui sont, elle est islandaise, lui il est norvégien, ils vivent tous les deux à Oslo. Et elle est danseuse, magnifique danseuse. Lui est trompettiste, et c'est un trompettiste assez incroyable. On va dire dans un rapport entre le corps et le son assez traditionnel, mais ils ont travaillé sur ce travail-là. Ils travaillent énormément sur la notion, sur la vague et sur la place du silence. C'est comme un poème nordique. On se croirait un peu sur la banquise. C'est vraiment très très beau. C'est la chapelle du conservatoire aussi, espace Josephine Baker. Et après, on vient un peu plus rock'n'roll. Il y a une proposition qui a lieu à l'Olympia d'une femme qui s'appelle Miette Varlop, qu'on a déjà invitée au festival en 2018 à la Pléiade, qui est vraiment une inclassable, on va dire. Chaque spectacle de Miette, on ne sait pas à quoi on va, quelle sauce on va être mangé. C'est souvent très détonnant. Son dernier spectacle qui s'appelle One Song, qui a fait un triomphe à Avignon, vient d'être consacré comme meilleur spectacle de l'année à New York. Celui-ci était le spectacle juste d'avant et qui est vraiment complètement délirant. Courez-y, voilà. Là, il reste de la place à l'Olympia, il y a beaucoup de place. Et après, on va aller vers Oona Doherty. Oona Doherty, qui est irlandaise, qui travaille, alors qu'il y a du coup un grand sens politique dans ce spectacle. C'est un spectacle qui commence dans la rue et qui finit en salle, et qui va commencer, qui est vraiment beaucoup sur les revendications des jeunes Irlandais, des quartiers pauvres, des quartiers de Belfast. Ce qui est assez drôle, ça fait partie des spectacles qu'on a, on n'a pas parlé du partenariat avec Désir Désir, mais qu'on a estampillé Désir Désir, qui est un rôle d'homme joué par une femme. C'est une jeune danseuse, c'est une espèce de bombe, voilà, une bombe qui joue le rôle d'homme. Ça finit comme un feu d'artifice.
D'ailleurs, oui, peut-être un mot sur ce partenariat avec le festival Désir Désir, qui fête son anniversaire cette année aussi,
les 30 ans. Ouais. Et comme en fait, avec Désir Désir, ça fait longtemps qu'on avait envie de trouver le moyen de faire des choses ensemble. Ça, c'était avant la crise. Après, du coup, cette année, ils avaient leurs 30 ans. Donc, on a décidé de travailler comme un passage de relais entre nos deux événements, puisqu'ils enchaînent la semaine prochaine. C'est vrai que dans ma programmation, du coup, j'ai réfléchi, même si on avait déjà repéré beaucoup d'affinités dans nos programmations, parce que c'est vrai que la question du genre est une question que j'ai souvent abordée dans la programmation. Cette fois-ci, elle est donc abordée avec ces deux spectacles, un vendredi soir de celui de Simon Sen, parce que Simon Sen, il achète un corps sur internet à $15 le jour de Black Friday. Seulement, comme il est plutôt fin et mince, il ne trouvait pas de corps d'homme à sa taille. Donc en fait, il a acheté un corps de femme et en fait il va vivre d'une manière virtuelle à travers des capteurs l'expérience d'être à l'intérieur du corps de femme, et en fait il va adorer. Il trouve ça absolument génial. Et mais après, il se pose la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce corps de femme, en fait. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Voilà, ça, c'est Simon. Et puis après, j'ai Ona. Ona, je crois qu'elle ne met pas l'accent sur ça, mais c'est sur la révolte. Elle parle de une révolte masculine, peut-être, plus violente. Voilà, je ne sais pas trop comment décrire, mais en tout cas sur cette question de genre, ça interroge beaucoup de voir cette petite femme, Sati Verun, c'est vraiment une danseuse, c'est une jeune danseuse qu'il faut voir. Voilà, il faut aller la voir.
Ça veut dire que ça reste, comment dire, l'idée de passer d'un genre à l'autre, ça reste quelque chose qui est subversif aussi dans la danse ?
Alors, ce que je trouve assez intéressant de comment ça évolue ces dernières années, parce qu'en fait, ça évolue beaucoup ces dernières années, dans la danse spécifiquement. Moi, je trouve toujours que la danse, c'est peut-être l'endroit où les choses se disent avant qu'elles se disent. Cette question de genre dans la danse, ça fait très très longtemps c'est pas un problème. Enfin, ça n'a jamais été un problème. Mais par contre, parce que ne serait-ce que dans l'histoire, hein, sûrement dans l'histoire, beaucoup de rôles d'hommes ont été faits par des femmes, notamment pendant tout le XVIIe siècle. Puis après, beaucoup de rôles de femmes interprétés par des hommes. Donc, on va dire que c'est pas un souci. Mais ces dernières, on va dire que ces derniers temps, comment elle est amenée sur le plateau? Comment il y a une espèce d'égalité. C'est par le rapport à la nudité, par exemple. La nudité masculine, ça fait longtemps qu'elle existe sur les plateaux en danse. Alors que, par exemple, la nudité masculine dans les spectacles de théâtre, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et en fait, ils sont un peu influencés par la danse. Alors que la nudité féminine, dans l'art, voilà. Ne serait-ce que ça.
Mais pourtant, les deux spectacles qui sont, comme vous dites, estampillés désir-désir, c'est ceux qui parlent du genre. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi ceux-là, en fait, et pas d'autres?
Pourquoi ceux-là et pas d'autres? Bonne question, ça aurait pu en être plein d'autres. Hein. Effectivement, pourquoi ceux-là? Parce que ceux-là, en fait, ils correspondaient à ma ligne, à moi. Déjà, enfin, la ligne que je voulais donner au festival. Donc là, notamment, on était sur le samedi, on était sur l'histoire de... une histoire de choses qui soient vraiment qui sortent de l'extérieur, qui posent aussi la question de l'espace de représentation. Et puis Simon parce que c'est extrêmement politique sa question, donc en fait ça mélangeait les deux. Mais j'aurais pu programmer Stephen Cohen ou d'autres personnes. J'ai failli d'ailleurs.
Peut-être l'année prochaine.
Peut-être.
On verra.
S'il y a une prochaine.
Ah. Parce que vous n'en êtes pas sûr?
On n'est jamais sûr.
Dire Inch'Allah, comme on dit. Alors, je me tourne vers Mathieu Durieux, donc Petit Faucheux. Peut-être, est-ce que tu veux nous redire un mot sur où est-ce qu'on retrouve toute cette programmation très riche, et comment on fait si on veut des places, et comment on fait pour savoir s'il reste des places?
Eh bien, c'est très facile. Sur le site du festival, festivalécoudevoir.com, mais également sur le site du Petit Faucheux, petitfaucheux.fr. Et sinon, vous passez nous voir à l'accueil du Petit Faucheux, vous nous appelez, et on se fera un plaisir de vous informer sur l'état des réservations, qui pour l'instant, hormis les petites jauges du samedi après-midi, le spectacle vitrine et le spectacle audio danse immatérielle, tout le reste, il reste encore plein de places. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places, parce que je pense que ça va s'accélérer dans la semaine qui vient.
Voilà, on est toujours bien reçu au Petit Faucheux en plus, donc n'hésitez pas à appeler. Et d'ailleurs, là, il y a quand même un public, j'imagine, fidèle au festival Écoute Voir, mais est-ce que c'est le même que le public habituel du Petit Faucheux?
Pas vraiment. Il y a quelques personnes qu'on retrouve aussi bien sur les concerts du Petit Faucheux et sur les spectacles du festival Écoute Voir. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de public qui, je pense, qui est fidèle au festival et coup de voir qu'on retrouve pas forcément nous dans notre salle tout au long de l'année et vice versa des gens qui viennent plus pour les concerts du Petit Faucheux et pas forcément sur les autres propositions qu'on peut avoir, mais même je dirais que au Petit Faucheux, voilà, d'un concert à l'autre et d'une esthétique à l'autre, parmi toutes les choses qu'on propose, voilà, on voit pas toujours le même public, donc voilà, un public très varié.
Et alors, Mathieu Durieux, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu, qu'est-ce que tu vas aller voir?
je vais aller voir la billetterie de beaucoup d'événements, puisque j'aurai la joie d'accueillir le public sur différents événements. J'espère pouvoir voir quelques spectacles. Il y a plusieurs choses qui me bottaient bien. La performance de Claudine Simon me bottait beaucoup. Le spectacle de Lisbeth Gruvez aussi au centre chorégraphique m'intéressait. Voilà, je pense aller voir la Reverdy aussi au musée du compagnonnage, peut-être en famille. Et puis, le spectacle aussi de Bara Sigfusdottir et Eivind Lønning aussi, ça m'intriguait pas mal. Donc ouais, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'espère pouvoir aller profiter un peu des spectacles.
Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Sinon, j'aurai la joie juste d'accueillir le public qui sera...
Voilà. Après, on peut peut-être dire qu'au niveau des tarifs, il y a des passes. D'abord, c'est tout dans le centre-ville. Les spectacles, qui a des passes super intéressants. On peut voir, parce que ça fait un peu partie du festival d'accepter d'aller voir des choses sans savoir vraiment ce qu'on va voir, d'aller à l'aventure. Donc il y a des passes 4 spectacles, des passes 6 spectacles, des passes 10 spectacles, abordables, je pense.
On peut dire le prix quand même.
Allez, on peut le dire. Mathieu.
On peut le dire.
Allez.
J'ai besoin de mes notes quand même. Le pass 4 spectacles à 35 euros, le pass 8 spectacles à 64 euros et le pass 10 spectacles à 75 euros. Même si je pense que le pass 10 spectacles ne doit plus en rester beaucoup vu qu'il y a des spectacles qui sont complets. Pour compléter ce que dit Francis, moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. On peut aller voir... une des propositions toute seule, mais je trouve que ça fait vraiment sens que d'aller voir plusieurs choses et de confronter aussi les différentes sensations, les différentes expériences qu'on va avoir sur ce festival, parce que voilà, c'est plein d'approches très différentes à la fois du son, du corps, et que c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire un cheminement entre plusieurs propositions.
Alors j'entends dans mon oreillette nos camarades étudiants qui me demandent, et si on a un PCE, est-ce que ça ouvre droit à une réduction ?
Oui, il y a pour certains spectacles, il y a un tarif réduit, et pour les autres, c'est des tarifs uniques pour les propositions. Mais en tout cas, sur les spectacles où il y a un tarif réduit, les étudiants peuvent avoir un tarif réduit.
Voilà, festival Écoute Voir, 12, 13, 14 janvier 2023. N'hésitez pas à aller consulter ce programme et à prendre vos billets. Programmation Francis Plisson, coproduction Marouchka et Petit Faucheux. Et alors, au bas de ce programme, il y a toute une jolie série de logos. Alors peut-être que vous voulez dire un mot sur les...
Alors, sur les partenaires, alors, du coup, là, sur le programme, il y a les partenaires du Petit Faucheux.
C'est poli de dire merci.
Les Faucheux. Non, mais après, je peux dire juste un petit mot, parce que c'est la première année qu'on l'a, donc je vais le dire. On a réussi à de l'argent privé d'une fondation qui s'appelle la fondation AG2R. C'est 2 ans de travail pour obtenir des sous de la fondation, mais qui mettent une somme assez importante sur le festival, ce qui nous a permis quand même de voir une programmation plus étoffée. Cette année, et autrement c'est les partenaires institutionnels qui vont être ville, département, région, DRAC, qui c'est pas un festival très subventionné malgré tous les logos qu'on peut avoir sur la plaquette, c'est beaucoup de petites sommes.
Voilà. Et puis parmi les logos, il y a tous les lieux qui accueillent le festival. Et c'est effectivement, ça mérite de les saluer et de les remercier, parce que c'est chouette de pouvoir compter sur ces lieux-là. Le Théâtre Olympia, le CCNT, le CCCOD. Voilà.
Le centre chorégraphique, ouais, le CCNT, tu as dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super important de le dire d'ailleurs.
Également le conservatoire, voilà, via la ville de Tours, et le musée du compagnonnage.
Voilà, parce que c'est des spectacles qui sont faits en coproduction avec eux. Donc ça veut dire qu'ils ne nous prêtent pas seulement l'endroit, ils s'investissent vraiment dedans. Et ils me font confiance.
Eh bien, merci à eux et merci à vous deux d'être venus sur notre radio pour nous présenter tout ce programme. On va pouvoir se quitter avec un dernier choix musical. Qu'est-ce qu'on va écouter, Francis Plisson ?
Peut-être on peut écouter Northern Ireland, qui est la musique du spectacle de Ona Doherty, qui est vraiment une musique irlandaise.
Qui des potes, non ?
Qui est voilà, qui est un peu voilà, qui
crache
un peu, voilà.
Alors merci à vous, on va se quitter
merci Mélissa.
Émission à réécouter aujourd'hui même à 17h et en podcast à volonté sur notre site radiocampustour.com. I'm so crippled with love. I'm so crippled with love. We're always saying we're from Northern Ireland. Yeah, look at our papers. We're from Northern Ireland. Charlie, I can play mean guitar. Sorrow sometimes. I used to work in Desmond's factory to get on $8.84. I take a look at my new shoes. I guess you wear it. Cause everyone's looking for you. It's difficult, it's difficult, it's difficult.